Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 16h à Buenos Aires et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, tollé international après la proposition de Donald Trump de contrôler et de rebâtir Gaza sans les Palestiniens. Un projet qui met en péril l'actuel cessez-le-feu, toujours très fragile à Gaza. Sur le front ukrainien, le Kremlin se dit sceptique face à la volonté du président Zelensky de négocier directement avec Poutine. Moscou qui réitère sa volonté de garder tous les territoires conquis en 3 ans de guerre. Après les États-Unis, l'Argentine quitte à son tour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'ultra-libéral président Javier Milei met en avant des différences sur la gestion de la santé et des questions de souveraineté nationale. Enfin en France, François Bayrou échappe à la censure grâce au PS et au RN qui se sont abstenus. La France a donc enfin ce soir un budget et conserve pour l'instant son gouvernement. La consternation et la colère. Les condamnations se sont multipliées aujourd'hui dans le monde entier, des pays arabes à l'Occident, contre les velléités du président américain de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour la transformer en Côte d'Azur du Proche-Orient, après avoir expulsé ses 2 millions d'habitants vers les pays voisins. Un projet qui semble effacer également d'un trait des décennies d'efforts de Washington pour une solution à deux États. Julien Chavanne.
Pour résumer, c'est une opposition claire et nette sur fond d'inquiétude sur les conséquences d'un tel plan. La France parle de déclarations dangereuses pour le processus de paix. La Russie et la Chine dénoncent un projet qui va à l'encontre d'une solution à deux États. Rejet catégorique chez les pays arabes. L'Égypte et la Jordanie, censés accueillir les habitants de Gaza selon la Maison-Blanche, y voient une ligne rouge. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar mettent en garde contre toute colonisation ou annexion des territoires palestinien. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme rappelle que le déplacement forcé d'une population d'un territoire occupé est strictement prohibé par les règles internationales. La réaction la plus vive est sans surprise venue du président de l'autorité palestinienne. « Nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple », a prévenu Mahmoud Abbas. Du côté du Hamas qui contrôlait la bande de Gaza avant la guerre, un responsable a jugé l'idée de Donald Trump absurde et susceptible d'enflammer la région. Les annonces fracassantes du président américain ont été uniquement saluées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et par l'extrême droite israélienne.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui passait un instant de surprise hier, a donc finalement salué une proposition qui pourrait changer l'histoire. Sous la pression des membres d'extrême droite de son cabinet, qui menacent de quitter le gouvernement si la paix est signée avec le Hamas, le projet de Donald Trump pourrait bel et bien lui offrir une bouée de sauvetage politique. Et parmi la population palestinienne israélienne, beaucoup soutiennent également les annonces de Donald Trump. Reportage à Jérusalem de Muriel Paradon et Nicolas Benita.
Envoyer les habitants de Gaza en Égypte ou en Jordanie, si l'idée choque au sein de la communauté internationale, 7 Israéliens sur 10 y sont favorables, selon un sondage publié lundi. Kfir, la cinquantaine, applaudit même les déclarations de Donald Trump.
C'est comme un rêve qui devient réalité. Ce dont nous avons besoin, c'est de se débarrasser du Hamas. Je pense que c'est bien aussi pour les Palestiniens de ne plus vivre sous le contrôle du Hamas. La Jordanie et l'Égypte, c'est mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui.
Certains sont encore plus radicaux. Valérie, une franco-israélienne, ne reconnaît pas l'existence du peuple palestinien et ne voit pas le problème à expulser les Gazaouis.
Pour ma part, je pense que c'est un très bon projet. De toute façon, il y a plein de pays arabes autour qui peuvent les accepter. On a confiance en absolument personne. Je pense que si Trump il arrive à faire un peu de ménage là-bas, ça serait très bien pour nous, en particulier les Israéliens.
Certaines voix s'élèvent tout de même pour dénoncer les projets de Donald Trump. Rousse est étudiante.
Je pense que c'est dingue. Je ne pense pas que les Gazaouis veulent partir ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que les États-Unis savent ce qu'ils font quand ils prennent le contrôle d'un endroit. On l'a vu par le passé. Je souhaite que les Gazaouis puissent vivre et reconstruire leur vie.
Muriel Paradon, Nicolas Benita, Jérusalem, RFI.
Et ce soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre toute tentative de nettoyage ethnique à Gaza, alors que de son côté, et malgré le tollé mondial, Donald Trump persiste et signe en assurant que tout le monde adore sa proposition de prendre le contrôle de Gaza. Sur le front du conflit ukrainien, le Kremlin se dit sceptique sur la volonté de Volodymyr Zelensky de négocier avec Vladimir Poutine. Le président ukrainien qui s'est dit prêt hier à des négociations directes avec son homologue russe et les dirigeants européens et américains pour mettre fin au conflit. Après 3 ans de guerre, les appels à des pourparlers de paix se font de plus en plus pressants avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, le président américain qui affirme vouloir mettre rapidement fin au conflit, mais sans avoir pour autant présenté de plan concret en ce sens. Moscou se dit toujours ouvert aux négociations, à condition que l'Ukraine se plie à ses revendications, à savoir céder toutes les régions occupées par la Russie, et que Kiev renonce également à rejoindre l'OTAN, autant de conditions inacceptables pour l'Ukraine. Après les États-Unis, l'Argentine va quitter à son tour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Annonce faite par le porte-parole du très trumpiste président argentin Javier Milei, qui a mis en avant de profondes différences sur la gestion sanitaire. Les Argentins, a-t-il martelé, ne vont pas permettre à une organisation internationale d'intervenir dans notre souveraineté et encore moins dans notre santé. Il est 20h06 à Paris. En France, l'Assemblée nationale a donc rejeté la censure du gouvernement Bayrou et adopté le budget de l'État. Sans surprise, puisque le PS et le RN avaient annoncé avant la séance eh bien leur volonté de ne pas censurer cette fois-ci au nom de la stabilité du pays. Charlotte Urien-Tomaca.
Le Premier ministre est lucide, le budget ne répond vraiment aux attentes d'aucun groupe. François Bayrou.
Beaucoup d'entre vous se sont succédés à cette tribune pour expliquer que le budget n'était pas ce qu'ils espéraient. Ça tombe bien parce que ça n'est pas non plus ce que nous espérions. Ce budget est une étape d'urgence.
Le socialiste Jérôme Guedje estime que ce n'est pas un budget de gauche, mais il se félicite des avancées obtenues grâce aux négociations entre le PS et le gouvernement.
C'est une des motivations que d'assurer cette stabilité. C'est aussi l'incarnation de la négociation qu'on a pu avoir, qui a ramené sinon des avancées, en tous les cas des atténuations des mauvais coups qui étaient portés. Les insoumis aboient et les socialistes travaillent.
LFI dénonce l'interruption du NFP par le PS. Éric Coquerel.
Ceux qui n'ont pas voté la motion de censure ont permis l'adoption du budget. À partir de là, vous en êtes comptable et vous êtes dans le soutien à ce budget, donc à son gouvernement. Donc ça, c'est contraire avec le NFP.
Le rejet de cette motion vaut donc adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2025 avant un dernier vote sans suspense au Sénat, jeudi, pour faire adopter définitivement le budget de l'État.
Et très en colère ce soir, les insoumis de LFI veulent isoler du nouveau Front populaire le Parti socialiste, qui a donc refusé la censure. LFI qui propose une réunion aux autres partis de gauche pour statuer sur une nouvelle alliance de gauche sans le PS. Enfin, la disparition de l'Aga Khan, le chef religieux, est décédé à Lisbonne hier à l'âge de 88 ans. L'imam des Ismaéliens Nizarites, une branche de l'islam chiite qui compte entre 12 et 15 millions de fidèles, occupait cette fonction depuis 1957, tout à la fois responsable religieux et philanthrope. Il avait investi une grande partie de sa fortune dans l'aide au développement. Lila Okuriana.
Le prince Karim Aga Khan IV, chef spirituel du deuxième groupe musulman chiite au monde, dit avoir passé sa vie à défendre l'islam comme une religion de paix et pas de désordre social. Il regrettait son instrumentalisation dans des situations essentiellement politiques. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Un symbole de tolérance pour le secrétaire général de l'ONU, son incroyable travail pour l'éducation, la santé et le développement est aussi salué par la Nobel de la paix Malala Yousafzai. L'Aga Khan était à la tête d'une gigantesque organisation à but non lucratif, l'Aga Khan Development Network, 96 000 employés et un budget annuel d'$1 milliard dédié aux activités de développement, de lutte contre la pauvreté, d'éducation et de santé en Afrique et en Asie. On peut citer la création d'un parc de 30 hectares au Caire à la place d'un ancien dépotoir, la construction d'un barrage en Ouganda, mais aussi le financement de l'hôpital français à Kaboul qui soigne et opère gratuitement les familles afghanes sans ressources. Son successeur sera annoncé à Lisbonne, ville où Karim Aga Khan IV avait installé le siège du culte musulman ismaélien. Dans les années 60, le Portugal avait été l'un des premiers pays à reconnaître la charge et la fonction de l'Aga Khan.
Et c'est bien son fils Rahim Al-Husseini qui a pris ce soir la succession de l'Aga Khan à la tête des Ismaéliens Nizarites. 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition.